Bonjour, donc merci à tous d'être venus et merci surtout à nos deux invités, donc Michel Lallemand et Anaïs Collet. Donc Michel Lallemand est sociologue, spécialiste du travail, professeur titulaire de la chaire Analyse sociologique du travail, de l'emploi et des organisations du CNAM et accessoirement ancien professeur de l'ENS de Fontenay, ancêtre de l'ENS de Lyon. Et donc il a écrit récemment l'ouvrage « Logique de classe, Edmond Gobelot, la bourgeoisie et la distinction sociale ». Donc il y a un ouvrage biographique sur Edmond Gobelot qui se propose, à l'aune de cette biographie, de relire l'ouvrage célèbre « La barrière et le niveau », ouvrage fondateur de la sociologie de la bourgeoisie. Et donc il explique que Gobelot lui-même était spécialiste de logique, donc philosophe, et se demande comment il en est venu à écrire un ouvrage de sociologie. Pourquoi s'intéresser aux bourgeois, et propose une relecture de l'ouvrage de Gobelot comme un ouvrage de logique ou d'application de la logique étudiant des classifications. Et donc, je le cite, il en parle comme un travail sur le processus de classification que collectivement les bourgeois mettent en œuvre en produisant des jugements de valeur destinés à convaincre de l'existence de caractères importants. Et donc c'est étudier la bourgeoisie en fonction des jugements de valeur qui la caractérisent et qu'elle met en œuvre pour se distinguer. Et donc notre deuxième intervenante est Anaïs Collet, également sociologue, spécialiste donc, de sociologie urbaine et de sociologie des classes sociales, et maître de conférence à l'Université de Strasbourg et chercheuse au SAGE. Et donc elle a écrit récemment un ouvrage qui s'appelle « Rester bourgeois, les quartiers populaires, nouveaux chantiers de la distinction », dans lesquelles elle étudie les nouvelles formes de bourgeoisie et le travail sur la gentrification des quartiers populaires. Donc il s'agit de présenter les anciens quartiers populaires comme un espace de lutte où s'effectue un travail de distinction de la part des nouvelles classes moyennes qui s'approprient le territoire et le réhabilitent pour en faire un outil de distinction sociale et donc un espace social au sens plein du terme.
Je vais vous présenter rapidement la démarche de Gobelot pour introduire la séance. Donc, Émile Durkheim fonde la discipline sociologique en rédigeant les règles de la méthode. Et il suffit de lire les premiers chapitres pour se rendre compte qu'il est bien conscient de l'existence des classes sociales. Elle est une forme de contrainte non institutionnalisée, selon lui, qui s'impose aux individus par le biais de l'éducation. Donc, je cite, « Il y a des usages suivis dans ma classe qui provoquent le rire ou la désapprobation des autres si je ne m'y conforme pas. » Pourtant, à aucun moment de sa carrière, Durkheim ne juge utile de faire l'étude systématique de la bourgeoisie. Son ancien camarade de classe, justement, Edmond Gobelot, est également issu d'une frange de la bourgeoisie dotée en capital culturel, mais il se tourne vers la philosophie. Et en rédigeant « La barrière et le niveau », il prend de la distance vis-à-vis de sa classe, mais aussi vis-à-vis des usages habituels de sa discipline. Ce qui lui permet de ne pas rester prisonnier à la fois des catégories de pensée de son époque, par exemple celle héritée de Marx, pour qui la bourgeoisie se définit seulement par un critère économique, donc la place des possédants dans le processus de production. Au contraire, pour Gobelot, c'est le critère économique est secondaire, et pour lui, ce qui compte, c'est la force de la bourgeoisie, c'est de faire croire à l'ensemble de la société qu'elle existe comme classe, et de montrer que sa position dominante est légitime. Donc c'est pour maintenir cette croyance que les bourgeois font acte de distinction sociale, c'est-à-dire que leur manière de faire, de penser, de sentir ont pour fin de maintenir une distance avec les autres groupes sociaux. Ainsi, le constat par lequel ils débutent la barrière de niveau est sans appel. Nous ne serons jamais assez reconnaissants envers la Révolution de nous avoir donné l'égalité civile et politique. Elle ne nous a pas donné l'égalité sociale. Donc maintenant, je vais donner la parole à Michel Lallemand, et en lui posant ses questions, mais on lui sera entière liberté sur ce qu'il va dire. Pourquoi s'intéresser à l'œuvre de Gobelot aujourd'hui, et qu'a-t-elle encore à nous apprendre ?
C'est à moi de parler ?
Oui, c'est ça.
Merci. Merci à tous les deux pour cette introduction. Merci à vous de l'invitation. Alors, je ne vais pas répondre immédiatement aux questions, mais je pense que dans le cours de l'exposé, j'aurai l'occasion de le faire. Alors je voudrais dire d'emblée ce qui a été redit. Ce qui peut paraître assez paradoxal, c'est que c'est avant tout un sociologue du travail que je suis arrivé sur une thématique comme celle de Gobelot. Alors je pourrais vous raconter comment, de façon un peu bizarre, on arrive sur un sujet comme ça, mais avant de le rationaliser, j'avais envie de dire deux mots en guise d'introduction qui structurent la problématique qui est la mienne dans ce travail-là et puis qui pourrait ouvrir à toute une série d'autres travaux que j'ai fait et que je pourrais encore faire. L'idée, en fait, c'est de surfer, si j'ose dire, sur une vague qui a été essentiellement développée par des historiens il n'y a pas très longtemps et qui consiste à pratiquer une histoire historienne de la philosophie. Et donc, l'idée, c'est de sortir, au fond, du mythe qui est entretenu par les philosophes eux-mêmes, d'une histoire pure de la philosophie qui est étayée sur une définition assez classique de la philosophie comme la recherche des fondements de la sagesse. Et depuis quelques années, avec des gens comme, je pense, par exemple, Stéphane Van Damme, qui vient de sortir un très, très joli livre sur l'histoire de la philosophie au XVIIe, c'est de regarder autrement la production des philosophes et de prendre au sérieux le fait que les philosophes travaillent. D'où la connexion avec une réflexion qui est la mienne sur des tas d'autres terrains habituels qui ressortissent davantage de la sociologie du travail. Alors ça peut paraître bizarre de dire ça, mais au fond, lorsqu'on regarde sérieusement les choses, y compris avec les historiens nous convainquent que la philosophie, c'est peut-être et avant tout une pratique sociale. Donc ça parle forcément aux sociologues. Vous ne le savez peut-être pas, mais par exemple, une des techniques de travail qui va de soi aujourd'hui, tellement elle est incorporée, c'est lire de façon silencieuse. Ben, lire de façon silencieuse, ça s'est inventé à partir du XIIe, XIIIe siècle. Donc il y a une technologie, y compris une technologie corporelle, que l'on met en œuvre dans des formes d'activité ou de pratiques sociales qui paraissent a priori complètement désincarnées et que les philosophes ont tendance à rabattre, bien sûr, du côté de l'universel et du pur esprit. Donc, vous voyez que regarder la philosophie comme une pratique sociale, notamment comme une pratique sociale de travail, ce n'est pas complètement stupide, en tout cas, je l'espère. Alors, ça renvoie aussi à toute une autre série de considérations que je ne vais pas travailler, mais la hiérarchie, par exemple, du travail intellectuel par rapport au travail manuel, on l'oublie, mais entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, le travail intellectuel était haut placé dans la hiérarchie sociale de plein de sociétés occidentales, et je pourrais vous donner 1000 citations d'intellectuels qui disent quand même ces gens qui travaillent avec leur corps toute la journée, quelle chance ils ont, hein, ils ont même pas à penser pendant qu'ils travaillent. Et nous, alors, les intellos, quand même, c'est fatigant, etc. Donc, et puis, avec la société marchande, il y a eu une inversion des valeurs qui a placé, au fond, en haut de la hiérarchie sociale, le travail qui était réputé producteur de valeur, et donc notamment souvent le travail manuel, etc. On pourrait, vous voyez, tirer le fil de multiples manières. Alors, deuxième chose qui m'intéresse, c'est d'entrer en dialogue avec la façon dont les philosophes pensent la question de la biographie. Alors là, on pourra revenir dans la discussion, parce que j'ai commencé à faire un travail de repérage, mais je dirais que la posture la plus traditionnelle des philosophes, c'est celle qui est incarnée par quelqu'un comme Bergson, qui estimait que sa vie privée n'avait rien à voir avec sa production intellectuelle. Et un philosophe aujourd'hui, qui est le patron d'ailleurs, ou un des patrons de la philo à Ulm, Frédéric Worms, se prompte pas le nommer, qui est un spécialiste de Bergson, explique dans le petit ouvrage qu'il a consacré, enfin dans un des ouvrages, pardon, qu'il a consacré à Bergson, que ce n'est pas la note de blanchisserie qui va expliquer l'intuition philosophique. Il ne faut quand même pas déconner. Hein. Et donc, vous voyez, il y a quand même une posture qui fait qu'il y a une espèce de déconnexion permanente entre les conditions sociales de production de la pensée qu'on veut ignorer et puis une pensée qui reste quand même réfléchie dans l'ordre de la pureté intellectuelle et de l'universel. Alors, bien sûr, la perspective sociologique tente de se déjouer de cette façon de voir les choses. Et c'est ce que j'essaie de faire en m'intéressant à Gobelot. Alors, Gobelot, j'ai noté ici, c'est un célèbre méconnu, pour des raisons qui ne vont pas vous échapper. Dès qu'on est un peu frotté de sciences sociales, ce qui est votre cas, vous avez tous lu, au moins une fois dans votre vie, La barrière et le niveau, et c'est pour ça qu'il est connu. Et ce qui est assez paradoxal, en l'occurrence, puisque Gobelot, fondamentalement, est un philosophe. Et lorsqu'on regarde son travail, je vais vous montrer dans un instant les principales productions, l'essentiel de sa production est d'ordre philosophique. Hein. Il était spécialiste de logique, je vais y revenir abondamment. Il a écrit un traité de logique qui, jusque dans les années 50, est resté une référence pour beaucoup d'étudiants en philosophie qui apprenaient la logique. Et pourtant, il y a un seul bouquin qui a passé l'usure du temps, qui a résisté à l'usure du temps, c'est La barrière et le niveau, qui a paru en 1925, mais qui était déjà en réalité écrit en 1919. Alors, si je dis ça, ce n'est pas un hasard, parce que vous allez voir que la périodicité des écritures est importante à considérer, comme le ferait n'importe quel historien, hein, si on veut comprendre quelque chose à la production réalisée. Donc, célèbre et méconnu. Et du coup, souvent, la tendance, c'est le deuxième point que je voulais évoquer, c'est de dire « Ah, Goblot, c'est génial parce que c'est un précurseur de Bourdieu », pour le dire vite. Hein. Et ce n'est précisément pas ça que je veux dire, parce que je pense que, comme le disait Canguilhem, la notion de précurseur est un faux objet historique, et on pourrait l'appliquer à la sociologie. La notion de précurseur est un faux objet sociologique, c'est-à-dire qu'on relie à un moment donné une production singulière, qui est une production intellectuelle, à la lumière de ce qui va suivre. Or, ça, c'est se condamner d'emblée à ne pas comprendre les conditions sociales de production de l'objet auquel on s'intéresse. Donc je voudrais précisément éviter ça, et je ne ferai surtout pas de comparaison avec Bourdieu, justement pour éviter ce travers qui est souvent quand même le travers de la plupart des commentateurs contemporains. Je ne reviens pas sur l'idée de critique sociologique de la sociologie, puisque j'en ai parlé d'emblée, mais c'est vraiment ça le projet, hein, réfléchir aux conditions sociales de production d'un discours sociologique, en essayant d'articuler à la fois des conditions biographiques, donc suivre une trajectoire sociale, mais en même temps en prenant au sérieux les arguments en interne. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de plaquer, si vous voulez, en disant la barrière de niveau, c'est simplement le reflet mécanique de conditions sociales de production. Ce n'est pas non plus le point de vue que je défends. J'essaye de tenir les deux bouts de la chaîne. Hein, ça, c'est un point important. Et puis, pour la méthodologie, pour finir sur ce point-là, j'ai eu l'immense chance de croiser, il y a quelques années, Viviane Isambert-Jamati, que vous connaissez peut-être, hein, qui est une grande dame de la sociologie française, et qui m'a fait don de 1000 lettres de la famille de Goblot, parce qu'elle-même appartient à la famille de Goblot. Donc j'ai pu travailler sur un matériau original de 1000 lettres de la famille Goblot. Ensuite, par ailleurs, à Ulm, il y a 6 cartons d'archives qui n'ont jamais été exploités, donc sur lesquels je suis tombé parce qu'un des descendants de Goblot venait de les verser à Ulm. Donc il y a 6 cartons d'archives qui n'avaient quasiment pas été exploités. Et puis j'ai lu forcément toute la prose de Goblot, ce qui n'est pas toujours rigolo parce qu'il écrivait beaucoup, et qu'une partie de sa prose est simplement sous forme de microfilm à la BNF, et donc ce n'est pas forcément ce qui est le plus rigolo. Enfin voilà, donc vous voyez, il y a un matériau empirique, hein, et ce n'est pas simplement un commentaire savant, enfin en tout cas je l'espère, de la barrière de niveau qu'il s'agit de produire. Alors, je vous le disais, Goblot a beaucoup écrit. Hein, là, il y a toute une série d'ouvrages dont j'aurai l'occasion de parler, sur lesquels je vais revenir. Et comme vous le voyez, il y a des ouvrages, c'est pour l'essentiel des ouvrages de philosophie, mais qui sont tout publics. Il y a des ouvrages de philosophie plutôt savants, et puis il y a des ouvrages de philosophie qui visaient à véhiculer une forme de morale que Goblot souhaitait promouvoir et qui était plutôt grand public. Donc c'est quelqu'un qui intervenait aussi dans l'espace public, je vais y revenir. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose 4 séries de remarques qui sont les suivantes. D'abord, je vais revenir sur la trajectoire sociale de Goblot, lui-même bourgeois, hein, et donc bien évidemment on ne peut pas ignorer que c'est un bourgeois qui parle des bourgeois, mais je voudrais être un peu plus précis en la matière. Ensuite, je montrerai comment Goblot se fait théoricien de la bourgeoisie, notamment en commençant à regarder ses textes fondateurs. Ensuite, je rentrerai dans le vif du sujet qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire sur, fondamentalement, je pense que la barrière de niveau, c'est un exercice de logique appliqué au monde social. La thèse n'est pas complètement originale, Goblot le dit lui-même, hein, donc c'est quand même pas un scoop, sauf que j'ai jamais rarement vu sous la plume de commentateur, c'est ça qui est assez étonnant. Et puis, autre thèse que je vais soutenir, c'est que, en fait, dans la construction du discours de la bourgeoisie sur la distinction, en fait, ce que montre Goblot, c'est que ce discours est grevé de paralogismes, et c'est parce que, donc des raisonnements faux, si vous voulez, et c'est parce que ces raisonnements sont faux que Goblot estime que la bourgeoisie ne peut pas être considérée, à strictement parler, comme une classe sociale. Hein, donc c'est la thèse, en fait, fondamentale de Goblot, qui me semble intéressante à regarder. Alors, je vais commencer par devenir bourgeois, c'est le premier point. Et là, il y a deux moments dans la trajectoire qui sont importants à considérer. Je dirais la petite enfance et puis le moment de la formation intellectuelle. La petite enfance, eh ben, c'est celui du jeune Goblot, qui est issu d'une famille bourgeoise elle-même de province. Alors la bourgeoisie dont il s'agit, hein, la bourgeoisie dont vient Goblot, c'est typiquement la bourgeoisie qui est héritière du basculement social dont la société française est le creuset après la monarchie de Juillet. Et donc c'est une bourgeoisie qui va se construire, je dirais, sur deux terrains bien particuliers. Un terrain industriel lié au développement des transports, hein, c'est le moment où va exploser les chemins de fer en France, l'industrie textile d'un côté, et puis une bourgeoisie qui fait ses armes et tire ses revenus de l'investissement dans des fonctions dans l'administration publique. Donc c'est cette bourgeoisie-là dont Gobelot est héritier. Et cette bourgeoisie, eh bien, dans le cas de Gobelot, elle prend la forme d'une naissance, si j'ose dire. C'est maladroit de le dire comme ça, mais dans une fratrie de 5 enfants. Donc il a un papa qui s'appelle Arsène Gobelot et une mère qui, elle, s'appelle Augustine et qui vient d'une famille du bois. Alors du côté du père, on est plutôt dans un milieu populaire. Le père de Gobelot meurt prématurément. Sa mère est une paysanne plutôt pauvre. Et en fait, les origines familiales bourgeoises viennent de la mère. Et donc le père de Gobelot, excusez-moi, je dis des bêtises, la mère de Gobelot vient d'une famille de la bourgeoisie de fonctionnaires, ce qu'on appelait la bourgeoisie des capacités, hein, donc des gens qui valorisent fortement tout ce qui est savoir, capital culturel, etc. Et vous voyez d'ailleurs que du côté de la mère de Gobelot, tous les gens vont faire carrière dans la fonction publique, dans des fonctions intellectuelles, etc. La figure majeure du côté de la mère de Gobelot, c'est l'oncle Édouard, qui était un polytechnicien et qui a fait une réussite sociale fantastique. Donc cet univers familial, il est intéressant parce que ce que montre l'exploitation des lettres, c'est l'existence d'une stratégie collective familiale pour grimper socialement dans la hiérarchie française. Hein, donc il y a une espèce de volonté collective de se soutenir pour pouvoir grimper dans la hiérarchie sociale. Donc ça, Gobelot le vit très, très, très concrètement. Alors ça se traduit comment? Ça se traduit d'abord par une hypervalorisation des études. Hein, donc on va soutenir l'ensemble des jeunes gens de la famille, garçons et filles, hein, les deux, pour pouvoir réussir dans les études, et la réussite scolaire est hyper valorisée dans ce milieu familial. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que la solidarité matérielle est aussi forte. C'est-à-dire que les lettres que s'échangent les différents protagonistes de la famille Dubois, les tantes de Gobelot notamment, témoigne du fait qu'on va se donner des coups de main pour pouvoir, ramener des confitures lorsqu'on va se rendre visite, mais aussi trouver des adresses pour trouver une bonne, entre guillemets, parce qu'on est quand même dans une famille bourgeoise, donc on a des domestiques, donc pour résoudre ce type de problème matériel. Troisième chose, c'est que le père de Gobelot bénéficie du soutien, si j'ose dire, scolaire, entre guillemets, des frères de la mère d'Edmond Gobelot, et notamment de l'oncle Édouard, du polytechnicien, pour pouvoir grimper dans la hiérarchie professionnelle. Le père de Gobelot était un agent. Je me suis en train de me demander si je ne vous ai pas dit une bêtise. J'ai dit qu'il était mort prématurément, mais c'est le père du père qui est mort prématurément, hein, que je ne dise pas de bêtises. Là, j'ai un petit doute sur ce que je dis. Le père de Gobelot a vécu, mais c'est son père à lui qui avait des origines populaires, et son père lui-même était mort prématurément, pour éviter les confusions, excusez-moi. Donc le père de Gobelot était agent vicinal, c'est-à-dire un petit fonctionnaire qui avait pour fonction, au niveau du département, d'entretenir les chemins départementaux, etc. Donc il a commencé très bas dans la hiérarchie de l'administration publique, et il a grimpé grâce au soutien des frères, donc de sa femme, qui lui donnait des cours de mathématiques par correspondance. Donc vous voyez, il y a un soutien, y compris scolaire, par un biais épistémolaire, épistolaire, voilà, c'est ça, merci. Et donc ça lui a permis également de grimper dans la hiérarchie sociale. Donc une des choses déjà que Gobelot voit très concrètement, c'est la stratégie collective dans sa famille lui-même qui permet de grimper dans la hiérarchie et de devenir bourgeois. Alors on pourrait être très long sur l'affaire, etc. Deuxième chose, deuxième moment important dans la vie de Gobelot, c'est sa trajectoire scolaire. Gobelot a une trajectoire assez classique de l'élite méritocratique de la Troisième République, puisqu'il prépare, après des études brillantes au lycée, il prépare l'entrée à l'école normale supérieure. Il s'y prend à trois fois. Comme vous le savez, à l'époque, les classes préparatoires littéraires n'existaient pas. C'est-à-dire qu'on refaisait l'équivalent de la première et de la terminale avec des cours particuliers et des professeurs pour préparer le concours d'entrée à l'ENS. Et donc, il rentre à l'ENS en 1879, exactement. Alors, juste avant, il y a une promotion dont vous connaissez les noms. C'est la promotion de Bergson, la promotion de Jaurès, de Gustave Belot, dont le nom vous dit peut-être rien, mais qui était important dans l'univers de la frange néo-durkheimienne à l'époque. Et donc, il aura l'occasion de bien connaître Henri Bergson. Henri Bergson sera d'ailleurs un des proches de la famille Gobelot. Il passera plusieurs nouvel an chez les Gobelot. Il aura quelques velléités, d'ailleurs, je ne sais pas comment le dire en termes choisis, vis-à-vis des sœurs d'Edmond Gobelot, etc. Ça ne va pas se faire, finalement. Etc. Donc, il y a une proximité familiale, amicale, etc., qui est forte. Donc, Gobelot intègre la promotion qui suit, qui est la promotion dans laquelle il y a Émile Durkheim, que vous voyez peut-être en haut à gauche, quoi, avec la barbe et puis l'espèce de cheveux en choucroute comme ça. C'est le jeune Émile Durkheim. Et donc Victor Homais, qui était le pote de Durkheim, vous savez, qui s'est suicidé très tôt, Pierre Janet, etc. Et alors, j'ai pas résisté, j'ai retrouvé un carton signé d'Émile Durkheim dans les archives, ça m'a fait un petit coup au cœur. C'est complètement illisible, Donc il fait les NS, et puis il a une carrière assez brillante. Et vous avez ici les principales étapes de la carrière de Gobelot, c'est-à-dire qu'il commence par être professeur, de philosophie en lycée, après avoir loupé la grecque d'ailleurs quand il était à l'ENS, et puis il la repasse une fois qu'il est en Corse, et là il est réussi à l'avoir. Donc ça, c'est un petit carton à droite qui présente la façon dont Gobelot se voyait lui-même. C'était une petite fiche que j'ai retrouvée dans les archives où il montre quelles ont été ses étapes de carrière. Et donc, il met l'accent effectivement sur les différents moments dans les différents lycées qu'il a traversés. Alors, moment lycée, il fait une thèse et après sa thèse, il rentre à l'université. Il commence à aller à Caen et il finit sa carrière à Lyon. Alors, je ne sais pas s'il y a des choses autour de Gobelot ici, mais en tout cas, il a une chaire d'histoire et de philosophie des sciences à Lyon de 1904 à 1930. Donc, c'était quelqu'un d'important dans la ville de Lyon. Alors, Gobelot a comme... Alors, la thèse, je vais en reparler. C'est une thèse qui a été faite sur la classification des sciences avec un philosophe que même les philosophes ont oublié, qui s'appelle Victor Heeger. La chose que je voulais dire, c'est que Gobelot arrive sur le marché du travail universitaire, pourrait-on dire, à un moment qui est plutôt favorable aux gens qui ont son profil. Et d'autant plus son profil qu'on est normalien à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de réformes qui sont promues au moment où Gobelot arrive sur le marché universitaire par les Républicains et qui tirent vers le haut la fonction d'enseignement en termes de postes créés, de rémunération, etc. Et alors, je ne sais pas si vous verrez quelque chose, mais là, j'ai repris un tableau à Victor Caradi qui avait étudié la trajectoire notamment des universitaires, etc., et qui montre que lorsqu'on compare la carrière des normaliens littéraires qui sont de la génération, disons, des années 1860, eh bien, leur probabilité d'accéder notamment sur des postes de professeur assez rapidement à l'université est bien supérieure, en tout cas, elle est supérieure à celle de leurs équivalents déjà 20 années auparavant. Donc, il y a vraiment le marché universitaire est porteur, et ça se traduit par le fait que, en général, les normaliens littéraires comme Jaurès, comme Durkheim, etc., ne restent pas forcément très longtemps au lycée et vont assez vite vers l'université. Alors Gobelot, de ce point de vue-là, est en retard par rapport à ses petits camarades, parce qu'il bénéficie d'un effet ENS, mais ceci dit, il mettra beaucoup plus longtemps que les autres à rejoindre l'université. Alors, sa socialisation professionnelle, on peut la lire à travers toute sa correspondance, ses témoignages, etc. C'est celle de quelqu'un qui apprend à devenir professeur. J'ai eu la chance de tomber, notamment dans les archives, sur toute une série de fiches qui sont des appréciations qui ont été portées tout au long de sa carrière professionnelle, d'abord par les inspecteurs de philosophie, et ensuite par parce que quand on était enseigné après à l'université, on était aussi évalué par l'équivalent directeur de l'université, etc. Donc pendant toute sa carrière, y compris universitaire, on avait des appréciations. Et dans la sociologie de la philosophie qui existe aujourd'hui, souvent les gens mettent l'accent, et avec justesse, hein, comme l'a fait Jean-Louis Fabiani dans son travail sur les philosophes de la République, sur le fait qu'il fallait apprendre, par exemple, lorsqu'on parlait à des jeunes gens de philosophie, à ne pas trop en faire, hein, avoir une parole froide, comme on disait, à ne pas faire trop d'éloquence, hein, ne pas faire trop de jeux de manche, etc. Et on retrouve effectivement dans ces fiches, c'est la première opposition, j'ai fait une analyse basique hein, à partir de schèmes élémentaires d'appréciation qui étaient portés sur ces fiches-là, une première donc, qui est verticale, et en haut, vous voyez que grosso modo, on retrouve cette idée-là, c'est que le bon professeur, c'est quelqu'un qui ne s'en porte pas, qui a une connaissance, etc. Mais ce qui apparaît nouveau, c'est de voir que l'appréciation portait aussi sur les activités extra-professionnelles du professeur de philosophie, ce qui, à mon avis, est un peu nouveau par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il y a des appréciations, y compris de l'impact qu'un professeur comme Gobelot peut avoir dans les villes de province, là où il enseigne. Et il se trouve qu'à certains moments, Gobelot avait quelques validités de faire des conférences sur le socialisme, ça plaisait pas aux bourgeois du coin, et donc ça lui a valu quelques inimitiés. Et ce genre de problème, eh ben, on le retrouve dans les évaluations qui sont proposées par les inspecteurs qui viennent le regarder. Donc, je dirais une première évaluation du rôle professionnel fait qu'en permanence, on mélange au fond le professionnel et le non-professionnel. Et Gobelot a beaucoup à faire déjà très concrètement avec la bourgeoisie provinciale par ses initiatives consistent à vouloir sortir l'enseignement de la philosophie en dehors du lycée proprement dit. Et puis, il y a une autre chose qui apparaît à travers cette évaluation empirique des formes de jugement de la compétence professionnelle, qui apparaît donc sur les cadrans qui sont plutôt à l'est. C'est lorsqu'on va vers l'université, les formes d'évaluation varient, et c'est davantage la sagesse philosophique, la réputation que le professeur peut avoir auprès de la bourgeoisie de province qui compte, plutôt que la technicité ou sa façon de parler, hein, puisque ça comptait, la façon de parler dans les premières formes d'évaluation, qui rentre davantage en ligne de compte. Et on voit progressivement comment Gobelot, tout au long de sa carrière, endosse ce rôle progressif de professeur de philosophie, hein, comment il habite le rôle social qui est assez caractéristique de ces philosophes de la Troisième République. Alors, Gobelot se fait professeur à un moment donné aussi crucial dans le champ de la philosophie. C'est le moment où la philosophie française s'institutionnalise. Donc, c'est le moment où apparaissent les premières grandes revues de philosophie. La revue philosophique, la première d'entre elles, hein, qui a été fondée en 1876. Ensuite, vous avez une concurrente qui apparaît un peu plus tard, en réaction d'ailleurs, pour partie avec la revue philosophique, qui est la revue de métaphysique et de morale, fondée par Xavier Léon. Et puis, c'est le moment où se fondent d'autres revues que vous connaissez peut-être. L'année sociologique, bien sûr, hein, on est dans la période de fondation des revues. C'est le moment aussi où la philosophie s'institutionnalise d'un point de vue associatif. C'est-à-dire qu'on se crée une association professionnelle de philosophes, dont le premier congrès a lieu en 1899 ou 1900, je ne sais plus exactement, et qui donne lieu au fameux vocabulaire Lalande, que certains d'entre vous connaissent, hein, qui reste encore publié régulièrement, republié par les PUF, et qui fixe le vocabulaire de la philosophie française. Et il y a l'équivalent en Allemagne, hein, j'ai mis, je ne sais plus comment il s'appelle, Wörterbuch der philosophische Begriff, je crois quelque chose comme ça, qui apparaît exactement à la même époque. Donc c'est un moment important du point de vue du devenir de la philosophie. Et ce champ de la philosophie, à l'époque, pour le dire vite, il y a deux caractéristiques majeures qui permettent de le comprendre et de le situer. Première chose, c'est qu'il y a une opposition structurante qui va opposer, je reprends les catégories proposées par Jean-Louis Fabiani, les positivistes d'un côté et les spiritualistes de l'autre. Alors, les positivistes d'un côté, il faut se rappeler une chose assez basique, mais qui a bien été montrée par un historien dans un ouvrage que je vous conseille de lire si l'affaire vous intéresse, Carnino, hein, Guillaume Carnino, qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle « L'invention de la science », et qui a notamment recensé le nombre d'ouvrages et d'articles qui, en France, au XIXe siècle, comportent l'intitulé « science ». Et vous voyez qu'il y a une explosion du référentiel scientifique au XIXe siècle, notamment au moment où la philosophie s'institutionnalise. Alors, on est là dans une forme de paradoxe presque paranoïaque qui peut traverser le monde de la philosophie, puisque d'un côté, il y a une forme de reconnaissance institutionnelle qui est en marche à travers l'institutionnalisation de ce champ-là. Et en même temps, on voit apparaître un concurrent sérieux du point de vue de la production des connaissances sur le monde, les hommes, etc., qui est un discours positiviste. Donc ça, c'est important et c'est très structurant. Et ce n'est pas étonnant si la sociologie naît à ce moment-là, bien sûr. Ce n'est pas étonnant si la psychologie positive qui est portée par Ribot apparaît exactement à ce moment-là. Donc on voit toute une série de philosophes qui vont se laisser conquérir, d'une certaine manière, par le discours positiviste pour aller fonder qui est la sociologie, qui est la psychologie, etc., etc. Mais reste une autre partie du champ qui dit « Ah non !» On ne peut pas enfermer l'ensemble du savoir sur l'être par des considérations positivistes. Et donc, c'est, pour le dire vite, une forme de mouvance spiritualiste qui a mille traditions, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Maine de Biran reste une référence importante. Le kantisme, dans certaines variantes spiritualistes, reste mobilisé par certains philosophes. Donc, vous voyez, il y a une tension extrêmement forte dans le champ intellectuel entre un pan positiviste et un pan spiritualiste. Alors, Goblot, toute sa vie, va être pris entre les deux. Il sera complètement pris entre les deux. Alors ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que de par sa trajectoire sociale, son origine de bourgeois, décapacité, etc., je dirais, il y a une propension plutôt à adhérer à une vision positiviste du monde qui l'amène à se débarrasser, par exemple, très tôt de ses convictions catholiques pour aller plutôt vers des horizons protestants, etc., qui sont assez proches en termes de connotation, d'homologie, de cohérence avec une posture positiviste. Et en même temps, à l'ENS, ses professeurs, Olé Laprune, je vais revenir sur d'autres, Boutroux, etc., sont des gens qui véhiculent une philosophie qui est spiritualiste. Fondamentalement, on ne va pas renoncer à l'être et à la métaphysique de l'être comme ça. Donc il va être pris en permanence entre ces deux référentiels, et ça c'est important pour comprendre, y compris le contenu de ce qu'il raconte. Cette tension, elle se traduit dans le champ philosophique par un sentiment de crise. Et donc, il y a, alors je pourrais vous citer mille trucs, mais Boutroux, en 1900, lorsqu'il ouvre le congrès de l'Association professionnelle des philosophes, c'est en 1899 et c'est publié en 1900, dit « Attendez, la philosophie ne va pas se laisser manger comme ça. » Donc il y a un sentiment de la part des philosophes que là, il y a un concurrent fort qui apparaît et qui est le point de vue positiviste. De là, deux séries en fait, de réactions, ceux qui prennent la défense de la perspective métaphysique, de l'ontologie classique, etc., et ceux qui vont se frotter aux sciences, entre guillemets, dures, j'aime pas du tout le terme, mais disons aux sciences positivistes. Et vous avez des philosophes qui vont apprendre la mathématique, qui vont apprendre la chimie, la biologie, etc. Et Goblot, par exemple, après ses études de philosophie, va faire des études de médecine. Il ne va pas jusqu'au doctorat, mais il va jusque en dessous du doctorat. Donc, parce qu'il y a ce sentiment qu'il faut connaître des choses en sciences pour pouvoir renouveler le métier de philosophe. Voilà. Alors, très vite, mais vraiment un des points cruciaux qu'il faut avoir en tête, c'est cette tension qui est incarnée, si j'ose dire, dans la trajectoire et dans la façon de penser de Goblot. Sinon, on ne comprend rien à Goblot et sa façon. Bon, alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais dans le bouquin, je raconte davantage. Goblot est investi dans tas d'autres activités. Il est franc-maçon. Et pour les francs-maçons, il publie un rapport qui est déjà de la sociologie de l'éducation. Alors ça, c'est magnifique à lire, où il compare la façon d'être des étudiants dans les écoles dites libres et les écoles publiques. Alors ça, c'est magnifique en disant il y a une espèce d'assurance dans l'école libre, etc. On est très poli, mais voilà. Enfin bref, c'est un petit bijou qui mérite. Et puis, pendant très très longtemps, il a travaillé aussi au service de la cause laïque, en publiant toutes les semaines des rubriques dans un petit magazine qui s'appelait Le Volume, qui après s'appelait L'école et la vie, où il prend en permanence défense pour l'école laïque. Et donc, il est très, très proche des gens, des enseignants de l'école primaire, secondaire, etc. Et il prend en fait. Alors, Bon, je ne vais pas en dire plus parce que sinon ça va être très très long. Et donc j'ai regardé les thèmes, ça va prendre beaucoup de temps, vous le savez comme moi. Des fois, un graphique en sciences sociales, c'est des heures de sueur. On ne s'en aperçoit pas, mais ça, c'est des heures de sueur et quelques dioptries en moins de mes yeux parce que c'était sur les microfilms. Enfin bon, les résultats ne sont pas forcément magnifiques, mais un des résultats, c'est qu'il ne parle quasiment pas de philosophie. C'est assez amusant. Et une des rares fois où il en parle, c'est pour parler de Bergson et régler ses comptes intellectuels avec lui. Bon, enfin, ça, c'est une autre affaire. Alors, j'arrive au deuxième point. Vous voyez, je ne suis pas en avance. Et donc, je voudrais revenir sur, maintenant, ce deuxième point, sur le texte ou le texte fondateur ou les textes fondateurs de la sociologie de la distinction et le contexte. Alors, ce que je veux dire là, c'est deux choses. C'est d'abord dire qu'il y a un premier texte qui mérite d'être lu, qui est apparu en 1899 dans la Revue d'économie politique et qui s'appelle « Les classes dans la société », où Goblot pose les premières réflexions de sa thèse en matière de distinction sociale. Et alors ça, vous pouvez le trouver très facilement, parce que maintenant, sur Internet, on le trouve, il n'y a aucun problème pour le récupérer. Hein. Et ça sera suivi après, comme je vous l'ai dit, la barrière et le niveau. Alors, je me suis amusé à comparer les deux textes hein, systématiquement. On s'aperçoit que l'entame des deux textes est à peu près similaire. C'est-à-dire que c'est l'idée notamment, le point de vue marxiste n'est pas pertinent pour comprendre les classes sociales et qu'il faut redonner droit pour comprendre ce qu'est une classe sociale au jugement de valeur de la part, il n'utilise pas ce vocabulaire, mais des acteurs, hein, que sont les bourgeois, pour pouvoir construire leur classe. Alors il le dit de mille façons, hein. Il le dit, les classes existent aussi grâce à des signes superficiels, les costumes, le langage, les manières, etc. etc. Enfin, vous connaissez la thèse. Et une des choses qui attire l'attention de Goblot, c'est notamment l'importance du baccalauréat comme signe de distinction. Hein. Et je vous ai remis la courbe là, du nombre de diplômés dans une génération française donc du baccalauréat. Vous voyez que lorsque Goblot est en train d'écrire, le nombre de personnes qui ont un bac, c'est on est aux alentours de 2%, hein, quelque chose comme ça. Quoi. Donc on est encore vraiment une frange extrêmement minime hein, de la population française qui peut avoir accès. Et là, et à droite, c'est un extrait du manuscrit de Goblot qui réfléchit sur ces choses-là. Donc le bac est par excellence un signe de distinction sociale hein, que les bourgeois vont valoriser. Autre signe de distinction sociale que Goblot évoque déjà dans l'article de 1899, c'est le salon. Donc avoir un salon chez soi dans lequel on reçoit des gens pour paraître, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et j'ai croisé ça avec les lettres du corpus de la famille, le corpus de lettres de la famille Goblot. On voit en permanence hein, revenir, à un moment donné, le père de Goblot veut emprunter des sous à l'oncle Édouard justement pour pouvoir aménager un salon pour être vraiment bourgeois. Hein. Et Goblot le dit à un moment donné aussi à sa tante, si tu veux faire bourgeois, si tu veux te distinguer, il utilise le terme de distinction à ce moment-là, il faut que tu aies un salon digne de ce nom. Hein. Donc vous voyez, ce n'est pas des choses qui sont complètement abstraites que Goblot met en scène, c'est des choses qu'il connaît intimement, familialement. Voilà. Et alors lui-même, dans son univers professionnel, vous savez que les salons ont été extrêmement importants aussi dans les univers professionnels des philosophes. Hein, on se retrouvait entre philosophes dans les salons pour disserter. Et là, c'est une photo de Goblot qui se retrouve dans un salon avec ses collègues de Toulouse, à l'époque où il était à Toulouse. Alors, la femme de Goblot, c'est celle qui fait le Saint-Nicolas, si vous connaissez Saint-Nicolas. C'est l'évêque avec la crosse, là. Enfin, je dis que ça, Saint-Nicolas, c'est mes origines lorraines. Hein, et Goblot, il est à droite avec la barbe et le chapeau, là, russe, etc. Quoi. Bon, bref. Donc, il a une connaissance intime de ce qu'est le salon. Et donc, dès 99, il utilise le terme de distinction pour théoriser cette façon d'être que la bourgeoisie met en scène pour pouvoir exister à l'aide de signes multiples, hein, encore une fois, les diplômes, les façons de se rencontrer dans des lieux spécifiques, le langage, le fait d'avoir des domestiques, etc., etc. Et dit-il, toujours la barrière et le niveau, le terme barrière et niveau est déjà présent dans le texte de 1899. Alors, ça n'empêche pas, après, d'innover. Et donc, il innove notamment dans la barrière et le niveau. Et c'est ce que je voudrais dire maintenant. Au fond, la barrière et le niveau, vous l'avez compris, amplifie les thèses qui sont présentes dans l'article de 1899, les radicalise d'une certaine manière. Mais il y a une série de terrains sur lesquels Goblot se déplace. Il y en a un déjà qui est assez intéressant, c'est le jugement politique que Gobelot émet vis-à-vis de ce qu'il appelle à l'époque le peuple. Il écrit en 1899, on est en France, le boulangisme et Dreyfus ne sont pas très loin. Et donc Gobelot adopte au fond une position qui n'est pas surprenante, il a encore une position d'intellectuel, consiste à penser le peuple sur le modèle de l'enfant, le fait que le peuple va être entraîné dans les pires extrémités, les pires dérives, pensez donc au boulangisme. Et en 1899, il a encore cette vision du monde-là. Et il l'abandonne complètement dans la barrière et le niveau. Donc ça change. Il oublie cette vision de la barrière. Et deuxième chose assez intéressante que l'on trouve et qui est nouvelle dans la barrière et le niveau, c'est qu'il introduit la question de la femme. Vous savez qu'à la fin du 19e siècle, on parlait de la question de la femme comme on parlait de la question sociale. Donc les sociologues l'ont souvent oublié, et c'était vrai d'ailleurs en Angleterre, avec la traduction de... le terme allemand qui me vient de Frauenfrage, donc la question de la femme, et il y avait l'écrit en anglais, donc woman, mais je ne sais plus, c'est question, certainement. Donc c'était quelque chose d'extrêmement important, la place des femmes dans la société, qui vient perturber des représentations masculines dominantes, avec l'émergence de nouvelles figures, comme la travailleuse, la prostituée, la bourgeoise, etc. Donc il y a des vraies questions sur quelle est la place de la femme dans la société et comment ça va perturber ou pas les rapports de genre qui étaient quand même pendant très longtemps sous dominance masculine. Et Gobelot intègre ça à la fin de La barrière et le niveau en utilisant d'ailleurs des termes zimmeliens. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il fait un mélange entre Durkheim et Zimmel pour pouvoir parler, il parle à ce moment-là de dimorphisme sexuel pour pouvoir typer les profils de l'homme et de la femme. Donc, La barrière et le niveau, si vous voulez, amplifie, modulo ces quelques variations, la thèse de la distinction qu'on trouve dans l'article de 1899. Alors, pour bien comprendre comment se construit la barrière et le niveau, je voudrais rentrer dans ce qui est, à mon avis, la thèse majeure de Gobelot, qui est la thèse de la logique de classe, mais logique au sens propre du terme, et pas au sens affadi tel qu'on peut l'utiliser lorsqu'on parle de logique de comportement, tout ce que vous voulez. Alors, pour bien comprendre ça, première chose à comprendre, il y a quatre points là qui structurent mon propos, c'est que Gobelot, très tôt, va défendre un point de vue qui est un point de vue très hétérodoxe chez les philosophes, c'est que la logique est une branche de la sociologie. Donc, pour dire ça, et quand on est philosophe, à ce moment-là, c'est quand même assez hardi. Et il faut rentrer donc dans sa thèse, donc la thèse qu'il soutient en 1898, sur la classification des sciences. Et dans cette thèse, première thèse massive, consiste à dire que toutes les sciences suivent un même parcours. C'est-à-dire que ce soit les mathématiques ou la biologie, mais à des décennies ou à des siècles d'écart, les sciences commencent toujours par être inductives, donc s'alimenter à des points de vue qui s'ancrent dans l'empirie, et après elles montent en généralité, et elles peuvent après avoir un statut épistémologique différent, qui est un statut hypothético-déductif, donc avec une capacité d'abstraction beaucoup plus forte. Voilà. Ça, c'est la thèse basique qui est soutenue par Gobelot dans sa thèse. Alors, dans sa thèse, on trouve également des choses intéressantes. C'est l'idée qu'on peut fonder une science qu'il appelle la sociologie. Donc il dit la sociologie, c'est une science, mais alors lui, il la limite à l'échange de services entre personnes. Assez bizarre, mais c'est comme ça qu'il conçoit les choses. Et avance-t-il, pour échanger des choses entre deux personnes, il faut qu'on ait une conception à peu près similaire des biens. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de rendre concordable, je ne sais pas si on dit ça en français, enfin en tout cas de faire converger des représentations qui sont des représentations individuelles, et donc on a intérêt à construire des représentations collectives. Donc nos représentations, elles sont aussi socialement instituées. Et il fait un parallèle entre la monnaie, d'ailleurs, et les mots, ce qui est assez amusant. Quand on sait que Bourdieu va écrire un bouquin où il soutient exactement la même thèse, on la trouve en quelques lignes consignées dans la thèse de Gobelot en 1898. Je ne dis pas que Bourdieu a été cherché, il ne l'a pas dit, ce n'est pas du tout mon propos, mais il y a une parenté d'interprétation qui mérite d'être notée. Et puisque les représentations, au fond, sont des constructions sociales, ce sont le produit d'une activité collective, eh bien, cette construction intellectuelle qui est la logique est aussi le produit de la société. Et donc, assez logiquement, le logicien qu'est Gobelot soutient cette thèse extrêmement hétérodoxe dans le champ de la philosophie, c'est que la logique est une branche de la sociologie. Donc, il faut bien que vous voyez que là, c'est un geste hétérodoxe d'une puissance extrêmement forte. Alors, une fois qu'il a montré ça, Goblot va plus avant dans le reste de ses travaux, et il travaille pendant toute une partie de sa vie, disons entre 1903 et 1919, pour l'essentiel, c'est pour l'essentiel où il travaille la logique, et il travaille au développement de ce qu'on peut appeler une logique de la qualité. C'est ça, sa singularité. Alors, cette logique de la qualité, elle s'instruit au fond de la logique classique de type aristotélicienne qui vise à travailler sur les différentes figures du syllogisme. Donc, j'ai remis ça là. Vous voyez, le syllogisme, si machin est et si ça est, alors j'en déduis que. C'est ça la figure de base du syllogisme. Et les logiciens que vous êtes auront, ou que vous avez peut-être été dans votre vie, se rappelle qu'il y a trois grandes figures du syllogisme. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le plus passionnant. Je les ai reprises ici, mais c'est ça qui est au cœur de la réflexion de Goblot. Alors, ce travail sur la logique s'inscrit dans un moment où la logique en France, et ailleurs d'ailleurs, est en pleine ébullition. C'est-à-dire, grosso modo, pendant des siècles, on n'avait pas bougé de la logique aristotélicienne. Kant lui-même a dit, avec Aristote, tout a été dit, c'est fini la logique, on sait tout. Et puis voilà qu'à la fin du XIXe siècle, des gens comme De Morgan, comme Boulle, etc., vont complètement chambouler la logique et vouloir faire un mariage entre logique et mathématiques, et donc rendre la logique de plus en plus abstraite, formelle, etc. En France, il y a des gens, des philosophes qui vont suivre cette pente-là, le plus connu est Louis Couturat. Mais une grosse partie des philosophes français va résister et défendre, au nom de la spécificité de la perspective philosophique, le fait qu'on réfléchit quand même sur l'être, sur la métaphysique, etc., ce basculement vers une forme de formalisme qui leur est insupportable. Et l'un de ceux qui résistent le plus, c'est Lachelier. Et Lachelier a été le professeur de philosophie de Goblot à Ulm. Et ça, c'est important. Alors, Lachelier mène des travaux de logique, mais dans une perspective qui reste traditionnelle et qui ne s'instruit pas de ce qu'on appelait à l'époque la logistique, c'est-à-dire d'une logique frottée de mathématiques et de formalisme. Alors, Lachelier a fait beaucoup, beaucoup de travaux de logique qui sont assez ennuyeux à lire, il faut bien le dire, mais parmi les résultats qu'on peut noter, je les ai listés ici. Alors, je laisse tomber la première chose, mais ce qui est intéressant, c'est qu'une des choses sur lesquelles très tôt Lachelier met le doigt, c'est que pendant très longtemps, les philosophes raisonnaient en opposant l'individu et l'universel. C'est-à-dire, il y a l'être singulier et puis il y a l'universel. Il y a Monsieur Paul et puis il y a la nature humaine, etc. Et Lachelier dit, il y a peut-être un entre-deux. Il y a peut-être du collectif et on pourrait réfléchir en termes de collectif et travailler la logique en intégrant cet entre-deux que les philosophes ignorent de manière générale. Deuxième chose, et là c'est plutôt de l'ordre de l'intuition, pareil, Lachelier dit, quand on commence à raisonner en termes de collectif, il y a toute une série de pièges de la pensée qui apparaissent systématiquement. Et un des pièges, c'est qu'en raisonnement, en appliquant la logique aux réalités collectives, parfois on fait des faux raisonnements, donc notamment des paralogismes. Et c'est cette idée-là que Goblot va reprendre. Il y a toute une série d'apports, mais j'y rentre pas pour pas être trop long. On pourra y revenir si vous voulez. D'où l'idée, c'est que Goblot va reprendre cette perspective, vous voyez bien, qui est celle d'une logique qui reste du côté du pôle spiritualiste du champ philosophique français. Et donc, il la travaille à sa manière, mais il va, assez curieusement, la rendre très proche du pôle positiviste durkheimien. C'est-à-dire qu'il va développer, au fond, un point de vue qui est assez proche de Durkheim. Et il le fait de façon explicite dans un gros livre de logique qui s'appelle « Traité de logique », qui paraît en 1918 et qui, encore une fois, a été lu et relu par toute une génération de philosophes pendant des années. Et dans ce traité de logique, Goblot réfléchit sur la notion de classe. Il dit qu'il y a deux choses importantes pour définir une classe. Première chose, c'est que lorsqu'on classe des éléments dans un monde social, physique, tout ce que vous voulez, il ne faut pas qu'il y ait de résidus. C'est le problème des CSP en France. Il faut classer tout le monde dans des cases, quoi. Bon. Et deuxième chose, c'est que lorsqu'on construit des classes, il faut qu'on ait ce qu'il appelle un critère important. Et le critère important, c'est ce qui permet à un moment donné de réunir dans un même espace des objets, des personnes, etc., tout en les distinguant des autres. Vous voyez, donc, la notion de caractère important est centrale. Alors, ce que fait Goblot, c'est qu'il laisse tomber le premier critère, parce que lui va s'intéresser à la bourgeoisie. Donc il ne va pas faire une théorie générale des classes sociales. Hein, donc la question du résidu, ce n'est pas son problème. Ce qui va l'intéresser, c'est la question de la production du caractère important, et notamment appliquée aux classes sociales. Vous voyez, donc on est vraiment directement dans une réflexion qui est irriguée par la logique, mais appliquée au monde social. Alors il le dit de façon explicite, hein. Non, alors ça, c'était pas ça que je voulais vous montrer. Il le dit, si, lorsqu'on réfléchit en termes de classe sociale, on va voir vite que les jugements de valeur sont importants. Les jugements de valeur sont importants, et un jugement de valeur, c'est ce qui permet de dire ceci est bon ou ceci est meilleur qu'eux, etc. Et ça, ça a à voir très précisément avec le fait qu'on va appliquer une logique à un monde d'objets ou de personnes collectives qui sont en général ignorées par la logique classique. Alors, il le met au travail, et c'est le dernier point que je voulais décliner, en l'appliquant au monde social. Alors là, vraiment, je voulais vous donner cette citation qui me paraît plus importante, parce que, explicitement, dans l'ouvrage qui s'appelle « La logique des jugements de valeur », en introduction, il le dit. Mon récent petit livre « La barrière et le niveau » est une suite d'exercices logiques sur des jugements de valeur. Hein. Et il dit « Ainsi, le logicien s'est fait accidentellement sociologue ». Vous voyez comment il est arrivé à la sociologie, c'est avant toute chose par un moment qui le mène vers la logique, parce qu'il a quand même, comme beaucoup d'autres, intéressé par ce domaine en pleine expansion au moment où lui se fait philosophe, mais en même temps en restant dans une tradition spiritualiste qui fait qu'il ne bascule pas vers une forme de logique logiciste. Et la logique de la qualité qu'il essaye de développer sur les traces de Lachelier l'amène à faire une application comme il aurait pu l'appliquer, comme il l'applique d'ailleurs, dans des tas d'autres univers. Hein. Donc c'est pour ça que parler de logique de classe, ça fait complètement sens. Alors, pour avancer en la matière, il faut... Alors, je vais passer toute une série de choses pour aller directement au quatrième point, voir comment Goblot applique justement ce schéma de logique appliquée au monde social, et c'est une des thèses que je soutiens dans le bouquin, c'est que Goblot va se heurter immédiatement à une question qui est la question des paralogismes. Hein. Alors, question des paralogismes. Alors, un paralogisme, c'est quoi ? Un paralogisme, on le sait depuis Aristote, c'est un raisonnement faux qui peut mener à la contradiction, et ce raisonnement faux, souvent, il est énoncé en bonne foi par les gens qui les énoncent. Hein. Donc, il ne s'agit pas de pointer du doigt les gens qui vont produire ce type de raisonnement en disant, vous voyez, ce sont des rhéteurs, des trompeurs, tout ce que vous voulez. Donc, je vais prendre un exemple qui est d'une trivialité absolue, mais qui, je l'espère, va vous parler. Proposition numéro 1, cet homme est noir. Proposition numéro 2, cet homme a les dents blanches. Conclusion, cet homme est noir et blanc. Ouais. Donc, vous voyez, on est sur un type de raisonnement où on va cumuler, en fait, des propositions pour aboutir à des résultats qui, en apparence, peuvent paraître paradoxaux. Alors, vous voyez où est l'erreur. L'erreur, c'est qu'on ne met pas en cohérence des propositions de même niveau. Parce que dire que cet homme est noir, c'est l'apparence générale de cet homme due à la couleur de sa peau est noire, alors que la couleur blanc fait référence à une partie, simplement, du corps, et non pas à l'ensemble des déterminants corporels, en tout cas, l'essentiel des déterminants corporels de la personne. Voilà. Donc, la thèse de Goblot consiste à dire, eh bien, la bourgeoisie utilise en permanence ce type de paralogisme pour pouvoir se construire comme une classe sociale. Voilà la thèse majeure de Goblot. Donc vous voyez, c'est un peu plus, c'est un peu différent de ce qu'on raconte à propos de Goblot. On dit toujours, Goblot montre que les bourgeois utilisent la stratégie de la barrière du niveau, ce qui n'est pas faux. Mais en réalité, la thèse de Goblot est un peu plus profonde parce qu'elle est irriguée par cette perspective qui vient directement d'une logique de la qualité, hein, qu'il hérite notamment de Lachelier. Alors, d'où l'idée qu'on peut lire comme ça la barrière et le niveau. Et
la proposition que je fais, c'est de dire que
dans la barrière et le niveau, il y a deux types de paralogismes qui sont pointés sans jamais le dire. Donc, c'est vraiment ma lecture, si je peux dire, que je propose. Donc, il y a deux types de paralogismes que l'on trouve dans la barrière et le niveau. Premier type de paralogisme, c'est ce que j'ai appelé le paralogisme des critères. Donc, ce paralogisme des critères, on peut le résumer à partir de quelques exemples que vous avez dans un tableau. L'idée, c'est de dire que le discours bourgeois, j'ose pas dire la rhétorique, hein, parce que la rhétorique, ça suppose, à strictement parler, une forme de volonté d'argumentaire, raisonné, conscient, etc., ce qui n'est pas le cas des paralogismes. Hein. En tout cas, le discours de la bourgeoisie mobilise deux types de critères. pour produire des caractères importants et se définir en tant que classe sociale. Voilà. Donc, premier type de critère, par exemple, qui renvoie systématiquement à la barrière et au niveau, dans les deux cas, hein, c'est... alors, attendez, est-ce que je suis sur le bon tableau? Non, excusez-moi, je vous donne le mauvais tableau. Voilà, c'est celui-là. Paralogisme des critères, c'est celui-là. Donc, premier type de jugement de valeur, par exemple, la mode vestimentaire. Donc, vous connaissez tout ça, hein, on a tous lu dans la barrière de niveau le fait que le bourgeois s'habille en gris, la bourgeoise est plutôt sur un habillement avec des couleurs frivoles, etc. Bon, grosso modo, on retrouve dans la barrière de niveau, premier type de jugement qui renvoie aux critères de niveau et dont l'enjeu, c'est de produire un caractère commun pour définir la classe sociale bourgeoise. Vous voyez bien, on est encore une fois dans la logique. Eh bien, pour être à la mode, sur le plan vestimentaire, il ne faut pas être original. Donc, c'est vraiment la logique du niveau, parce qu'il faut s'habiller comme ses pairs bourgeois. Deuxième type de jugement, de valeur, c'est le critère de la barrière, que l'on connaît bien. Pour être à la mode, sur le plan vestimentaire, il faut être original. Donc, on a une proposition inverse à la précédente, qui aboutit, comme dans toute forme paralogique, à une contradiction. C'est-à-dire que pour être bourgeois, il faut à la fois être à la mode et ne pas être à la mode. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la structure logique, si j'ose dire, du paralogisme de type aristotélicien. Alors, ce que dénonce Goblot dans cette affaire-là, et puis vous pouvez décliner avec les autres thématiques, hein, la barrière de niveau, c'est comme ça que je l'ai relu, en tous les cas. Conséquence de ça, ce que raconte Goblot, pardon, c'est de dire qu'en fait, il y a un vice dans le raisonnement, donc il y a un vice dans le discours. Et quand je dis c'est le discours, c'est au sens large, c'est aussi les pratiques, hein, que la bourgeoisie met en scène pour apparaître comme classe sociale, c'est qu'elle met, elle articule des formes de jugement qui ne sont pas de même niveau en réalité. Et dans un cas, la proposition est une proposition de type collective, c'est-à-dire qu'il faut se différencier du vulgaire, hein, donc ça c'est la stratégie de la différenciation, de la distinction, mais en même temps, il ne faut pas se différencier des autres. On n'est plus là sur un registre collectif, mais on est sur un registre individuel. En d'autres termes, ce n'est pas le terme original qu'il faudrait utiliser si on était strictement rigoureux à proprement parler, c'est le terme excentrique. Et donc, on joue sur les mots en mettant sur un même registre deux fois original, alors que dans un cas, il faut être original collectivement pour se différencier des autres, mais il ne faut pas être excentrique, y compris dans sa propre classe, ce qui renvoie à des stratégies strictement individuelles et pas collectives. Vous voyez ? Donc, c'est ce type de montage illogique que Goblot dénonce, et la conséquence de ça, d'ailleurs, c'est de dire que, comme la classe sociale bourgeoise est illogique, elle ne fait pas, c'est pas vraiment une classe, à terme, la classe sociale est amenée à disparaître. La classe sociale bourgeoise est amenée à disparaître, et c'était la conclusion de l'article de 1899. Il disait « la bourgeoisie va disparaître », parce qu'on ne peut pas, comme ça, impunément, continuer à exister comme classe sociale uniquement à partir de jugements de valeur, de signes artificiels, etc., etc. Alors, et je finirai là-dessus, il y a un deuxième type de paralogisme qu'on peut trouver dans la barrière de niveau et qui permet de lire également l'ensemble des assertions sociologiques que Goblot promeut à propos de la classe bourgeoise. C'est ce que j'ai appelé, là aussi c'est du vocabulaire personnel, des paralogismes de jugement. Alors l'idée là, c'est de regarder comment à un moment donné les bourgeois vont produire des caractères importants pour justifier l'existence d'une classe sociale qui est la bourgeoisie. Pour ce faire, là aussi, ils mobilisent deux types de propositions. Une proposition ou des types de propositions qui ont statut de jugement de valeur. Exemple, le paraître vaut plus que l'être. Et entre parenthèses, je ne l'ai pas dit, mais Goblot développe dans ses travaux toute une théorie du moi social. Il montre qu'il y a trois strates dans le moi. Il y a le moi physiologique, il y a le moi individuel, si j'ose dire, donc psychologique, et il y a le moi social. Et il explique que le moi social, c'est celui que nous préférons. Hein, et, ce moi social, il est construit par la représentation que nous avons des représentations des autres. Hein, bon, voilà. C'est le genre de choses qu'on retrouvera d'ailleurs chez Keynes et qui a fondé d'une certaine manière toute la théorie des conventions après. Bon, enfin bref, je ferme la parenthèse. Donc, le paraître est important. Deuxième type de jugement, c'est que la richesse apparente reflète la qualité sociale des personnes. Vous cumulez les deux proposition, en bonne logique, et vous avez un caractère important qui apparaît, c'est que les dépenses inutiles, eh ben, c'est un caractère important, ça permet de fonder une classe sociale, et bien sûr, la bourgeoisie peut se définir à partir de ce caractère important singulier, que sont les dépenses superfétatoires, inutiles, ostentatoires, tout ce que vous voulez. D'accord ? Alors, les autres, il y a d'autres colonnes qui font exactement. Donc, vous voyez, c'est un autre type de paralogisme. Alors, où est la faute ? Pour Goblot, la faute, elle vient du fait qu'en réalité, le second type de jugement n'est pas un jugement d'expérience, mais un jugement de valeur. C'est-à-dire que dire que la richesse apparente reflète la qualité sociale des personnes, ce n'est pas factuellement prouvé. Et pourtant, dans le discours bourgeois, bah, tout est véhiculé pour faire croire que ça relève de la, factualité. Hein. Et donc, la faille dans le raisonnement, elle vient de là, c'est de faire passer pour des jugements d'expérience ce qui est en réalité des jugements de valeur. Et donc, quand vous cumulez deux jugements de valeur, vous pouvez produire n'importe quel caractère commun pour justifier en logique l'existence d'une classe qui est la classe sociale bourgeoise, en l'occurrence. Voilà. Hein. Voilà, donc, vous voyez, je me démarque un peu du point de vue des travaux habituels. Alors, j'espère que je n'ai pas trop mangé de temps. Ah, si, un peu, ouais. Mais il fallait m'arrêter. Donc, je ne fais pas de conclusion et je laisse la suite.
Non, il y a le temps d'une conclusion.
Ah, d'accord, ok. voilà. En conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est que ma sœur habite en Alsace, m'a ramené l'acte de décès de Goblot qui est mort à La Baroche. Je sais, on a discuté Alsace à midi. Voilà. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Et ce qui est plus intéressant, en revanche, peut-être, hein, c'est d'insister, j'irais, sur deux résultats importants. Un, c'est qu'on ne peut pas comprendre, bien sûr, ce qui est la barrière de niveau si on ne réfléchit pas aux conditions sociales de production de ce produit d'un travail singulier qui est le travail intellectuel d'un philosophe. Bon. Et deuxième résultat, c'est que j'ai essayé de tenir deux choses en même temps. À la fois prendre au sérieux le fait que Goblot vient pas de nulle part, que c'est un bourgeois qui écrit sur les bourgeois, qu'il est d'un segment particulier de la bourgeoisie, qu'il avait prédisposé d'une certaine manière à être plutôt attiré par le pôle positiviste du champ philosophique de l'époque, et ce qui le mène vers la logique. Mais en même temps, dans le champ de la logique, il prend le parti du spiritualisme qui est celui de ses maîtres à Ulm. Donc on voit bien comment les choses se négocient, s'articulent, etc. Et deuxième chose, j'ai toujours été fasciné dans mon univers professionnel, qui est celui de la sociologie du travail, par le fait que les sociologues du travail vont nous dire que c'est quand même scandaleux qu'il y ait cette séparation permanente du produit du travailleur avec le travailleur lui-même, c'est la définition de l'aliénation, et qu'eux-mêmes ne s'appliquent jamais. C'est-à-dire que, on va expliquer comment un sociologue, à un moment donné, va produire ses résultats, on ne fait pas, quoi. Hein. Et donc, je pense que c'est une exigence de réflexibilité qui est saine. Voilà, et c'est ce que j'essaie de faire. Je ne me le suis pas appliqué à moi-même, mais je pense que ça donne un tout petit peu de surplus d'intelligence au produit d'un travail, qui est, en l'occurrence, un texte qui a, fort heureusement d'ailleurs, laissé trace dans l'histoire de notre discipline.